France Musique. Musicopolis. Début de l'hiver 1516, manoir du Clou. Il fait déjà assez froid lorsqu'arrive au manoir du Clou, près d'Amboise, un petit groupe d'hommes venus d'Italie, guidés par une escorte royale. Parmi eux, l'aîné sans doute, il a 64 ans, celui que François Ier de France a ardemment souhaité appeler auprès de lui, un génial peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur et musicien, Leonardo da Vinci. Vous vous étonnez que j'ai présenté le grand Léonard de Vinci comme un musicien. Comment, vous dites-vous, on ne m'aurait rien dit? Voilà un homme dont le nom est mondialement connu grâce à ses peintures et j'apprends aujourd'hui qu'il est compositeur. Ah non, justement, pas tout à fait compositeur. Léonard est un grand musicien, mais il n'a pas composé au sens où nous l'entendons de nos jours. Léonard a été un grand improvisateur. Alors qu'aujourd'hui, nous avons les moyens techniques de retenir les éphémères productions humaines appelées improvisations, ce n'était pas le cas à la Renaissance. Certes, on aurait pu noter les improvisations, mais tout simplement, ça ne se faisait pas. Et donc, nous ne pouvons que croire sur parole ces nombreux contemporains qui se sont exprimés sur Léonard. Très digne peintre, architecte et musicien, dit le mathématicien Luca Pacioli. Un commentateur anonyme, quant à lui, assure que Léonard était un orateur éloquent et un extraordinaire joueur de lira da braccio, et même le professeur de lira de Atalante Migliorotti. On apprend par ailleurs que Laurent le Magnifique l'a envoyé au duc de Milan tout exprès pour lui présenter une lira da braccio parce qu'il était unique comme joueur de cet instrument. Enfin, Paolo Giovo écrit que Léonard était un génie extraordinaire. Il était chaleureux, précis et généreux, avec une expression rayonnante et gracieuse. Et puisqu'il était un merveilleux inventeur et connaisseur de toutes les subtilités et plaisirs du théâtre, et qu'il jouait si bien de la lira da braccio avec l'archet, il a miraculeusement été admiré de tous les princes pendant toute sa vie. Les biographes de Léonard de Vinci, les biographes d'aujourd'hui, ne parlent pas ou presque pas de ses activités de musicien. Et les chercheurs ne cherchent pas beaucoup non plus sur le sujet. Sans être parano, il me semble qu'on peut y voir une méconnaissance de la musique de la part du milieu de la culture. Je parle bien sûr en général, il y a évidemment quelques exceptions. Mais bon, nous ferons avec. Il y a tout de même un livre publié sur cette question, écrit par Emmanuel Winternitz. Et heureusement, les musiciens, eux, sont toujours prêts à ramener dans leur giron ces personnalités que les érudits ont oubliées. Alors profitons-en. La bella
d'acciaio il cuore, anzi di ferro, anzi là di diamante. Ella fugge da me sempre davante, come agnella dal lupo fuggir suole. Udite sempre mie dolce parole, poiché la ninfa mia
on trouve chez les contemporains de Léonard pas mal de choses à glaner concernant ses qualités de musicien. Je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Le peintre et architecte toscan Giorgio Vasari nous donne quelques précisions supplémentaires dans ses vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Il écrit à propos de Léonard « Il a consacré beaucoup d'efforts à la musique. Avant tout, il s'est attaché à apprendre le jeu de la lyra, puisque par nature, il possédait un esprit noble et élégant. Il chantait divinement, improvisant son propre accompagnement à la lyra.
Andar conviemmi alle tartare porte e provar a se laggiù merze sempetra. Forse che svolgerem la dura sorte con lacrimosi versi o dolce cetra. Forse ne diverrà pietosa morte, che già cantando abbiamo sola pietra, la cervia e il tigre insieme avemo accolti, e tirate le selve e i fiumi svolti.
Voilà donc ce que nous savons de Léonard de Vinci, musicien. Il chantait et il improvisait sur la lyra da braccio. Mais au fait, qu'est-ce qu'une lyra da braccio, une lyre de bras ? Le terme « lyre » avec un « i » reprend l'idée de l'instrument antique. Hommage à la lyre avec un « y », instrument pratiqué par Apollon puis par son fils Orphée. Construite par Hermès dans une carapace de tortue, avec des cordes en boyau de bœuf, la lyre antique est donc un instrument à cordes pincées. Rien à voir en fait avec cette lyra da braccio qui ressemble davantage à un violon et qui se joue avec un archet. Il reste dans les musées quelques exemplaires de lyra et aussi de nombreuses représentations sur des tableaux, ce qui a permis à des luthiers d'aujourd'hui de reconstituer des instruments neufs pour essayer de retrouver l'usage de l'instrument. Un instrument essentiellement improvisé et pour lequel nous n'avons aucun répertoire écrit, sauf deux petites danses, un passamezzo et une romanesca. La lyra da braccio a une forme qui se rapproche de celle du violon, mais avec quelques différences. D'abord, la touche, le manche de l'instrument, est un peu plus large. Ensuite, le nombre de cordes. La lyra en a 7, 5 sur la touche et 2 en dehors qui servent de bourdon. Le chevalet, la petite pièce de bois qui soutient les cordes et qui leur permet de ne pas toucher la touche, est presque plat sur la lyra, ce qui permet de jouer facilement plusieurs cordes à la fois et donc de produire des accords. Les caractéristiques de la lyra da braccio, notamment sa faculté de produire des accords, font que l'instrument est particulièrement pratique pour accompagner le chant. Et il semble que justement, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, pendant la vie de Léonard de Vinci, la lyra da braccio est utilisée par les chanteurs qui s'accompagnent eux-mêmes. Souvent, le chanteur improvise en même temps les paroles et la musique. Giorgio Vasari dit justement que Léonard fut le meilleur improvisateur de rimes de son époque. Nous n'avons aucune description technique de la manière dont un improvisateur comme Léonard de Vinci pouvait s'y prendre pour en même temps réciter des vers, improvisés ou non, et s'accompagner à la lyra da braccio. On sait seulement qu'il jouait et récitait en même temps. Dans la recherche de cette pratique, Denis Rézindadre, en préparant un disque autour de la musique suggérée par les tableaux de Léonard, s'est souvenu d'une pièce éditée en 1503 par le premier éditeur vénitien Ottaviano Petrucci. C'est une grille harmonique, simplement intitulée « Per sonetti ». Une grille harmonique exactement comme on trouve aujourd'hui pour soutenir des standards de jazz. Et qui, dans le cas de ce « Per sonetti », est prévue pour se jouer pendant la récitation de n'importe quel sonnet. D'où l'idée de Denis Rézindadre de faire jouer cette grille à la lyra da braccio, l'instrument de Léonard, pendant que la chanteuse Clara Coutouli improvise une récitation d'un sonnet de Pétrarque.
Thank you.
Voilà donc ce qu'on peut imaginer de la pratique de Léonard de Vinci lorsqu'il récitait des vers de Pétrarque ou d'un autre poète, et qu'il jouait en même temps sur sa lira da braccio, un accompagnement improvisé. Giorgio Vasari, dans le récit qu'il consacre à la vie de Léonard, raconte qu'en 1494, le peintre musicien est amené en grande fanfare chez Lodovico Sforza, exprès pour jouer pour lui, puisque le duc aime passionnément le son de la lyra. Pour l'honorer, Léonard lui apporte un instrument qu'il a construit de ses mains, fait principalement d'argent, en forme de crâne de cheval. « Une chose nouvelle et étrange », nous dit Vasari, « avec un son plus beau et plus puissant. En le jouant, il surpassait tous les autres musiciens venus jouer là. » C'est donc pour l'entendre que Lodovico a fait venir Léonard, ce qui atteste de sa réputation musicale. Pendant les années que Léonard de Vinci a passé à Milan, le maître de chapelle de la cathédrale était Franchino Gaffurio, musicien et théoricien, auteur de plusieurs traités sur la musique. Gaffurio et Léonard ont eu sans doute mille occasions de parler musique ensemble, de confronter la pratique de l'un et la théorie de l'autre. On a longtemps cru que le tableau de Léonard intitulé « Un musicien » était le portrait de Gaffurio. À présent, certains spécialistes penchent plutôt pour une représentation de Josquin des Prés, le sans doute plus grand musicien de l'époque et qui s'est trouvé lui aussi à Milan, au moins à deux reprises pendant les années que Léonard y a passé. On ne connaît pas exactement la date de naissance de Josquin, je vous renvoie à la série Musicopolis sur le sujet, mais il pourrait être né entre 1450 et 1455, ce qui en fait un exact contemporain de Léonard, né lui en 1452. En septembre 1515 a eu lieu la bataille de Marignan. Le roi François Ier, qui voulait récupérer le Milanais, a gagné. En décembre, à Bologne, il rencontre le pape Léon X pour engager des négociations en vue d'un concordat. Léonard est présent à cette occasion. François Ier est plein d'admiration pour le peintre et musicien et il lui propose de venir en France, de troquer le Mont Palatin pour la douceur des pays de Loire. C'est un an après que notre Léonard prend la route jusqu'à Amboise. Là, il va passer les trois dernières années de sa vie. Le roi lui offre le manoir du Clou, qu'on appelle aujourd'hui Château du Clos Lucé, tout de suite plus classe. Léonard va vivre ses derniers jours dans la paix, ayant quotidiennement des échanges avec François. Il apprécie la vie à Amboise, mais il se sait malade et il profite du temps qui lui reste pour mettre un peu d'ordre dans ses carnets. Peut-être fait-il encore de la musique. Il a certainement avec lui sa lyra da braccio. Peut-être parfois en joue-t-il, puis laissant l'instrument, s'en va regarder par la fenêtre de sa chambre qui donne sur la Loire, en évoquant les jours passés. Le regret, chanson à quatre voix qui est peut-être de Josquin des Prés, chantée ici par l'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Pierre Monteil pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.